Bonjour, bienvenue, Jamais 203 vous emmène encore dans les archives du rire à la découverte de nombreux trésors. Et je dois vous avouer que faire des choix c'est parfois difficile, surtout pour l'émission d'aujourd'hui que nous consacrons à l'humour suisse et encore plus précisément à l'humour qui se vit ici dans l'arc jurassien. Glisser Pierre Miseré, Cuchet Barbeza, Zouk, Ouin-Ouin et quelques autres, c'est mission presque impossible en 30 minutes, mais on va quand même le faire. Et avant d'entendre les intéressés, je vous donne deux extraits qui prouvent que l'humour qui se crée dans notre coin de pays est très bien dégusté au-delà de nos frontières. Le premier, c'est une interview de Jacques Martin, réalisée à Neuchâtel le 29 novembre 1987. Il nous parle ici d'une femme jurassienne qui faisait un succès phénoménal à la fin des années 80 à Paris. Jacques Martin.
Mais la semaine dernière, j'ai été soufflé jusqu'à l'âme par Zouk, qui a une autre façon de faire rire et je n'avais jamais vu ça sur scène. Pourtant, je l'avais vue auparavant à Bobino, mais là, elle m'a soufflé. C'est une actrice hors du commun, et ce qu'elle fait rejoint un monde fantastique.
L'autre extrait, c'est Raymond Devos, rencontré à Genève le 23 mars 1993. Il nous parle du clown Grock comme d'un grand maître.
Mais on ne peut même pas parler d'inspiration. Oui, c'est une inspiration, mais une inspiration que pourrait provoquer un maître.
C'est quand on a vu
Grock, la première fois que j'ai vu Grock, c'est pas une inspiration, il vous inspire pas, il vous marque. Parce que c'est ça. Parce que c'est comme ça qu'il faut faire, c'est ça, c'est pas autre chose. Il n'y a pas besoin d'aller chercher autre chose, il vous montre ce que c'est.
Voici donc les archives du rire avec les humoristes du cru, nos voisins, ceux qui nous font rire ici et ailleurs. J'aimerais commencer cette émission par un personnage drôle que vous connaissez tous. Il s'agit de Ouin-Ouin. Son véritable nom, oui, parce qu'il a existé, c'est Amédée Célestin Rossillon. C'est un ouvrier né le 27 septembre 1852 à Carouge et il est parti travailler comme horloger à la Chaux-de-Fonds. Il tenait son surnom de sa manière de dire « oui » qu'on entendait souvent « ouin ». Une élocution due à un bec de lièvre qu'il cachait par une moustache. On prête par ailleurs à cet amateur d'absinthe et de bière une descente plutôt vertigineuse. Ouin-Ouin est connu à Paris, notamment grâce à Pierre Dudan qui, dans les petits cabarets parisiens, raconte les histoires de Ouin-Ouin.
Bien, je parlais de Ouin-Ouin, qui est le Marius helvétique. Un gars, il parle comme ça, parce qu'il n'a pas de palais. Et puis il parle du nez. Il est bête et obstiné. Alors je commencerai par une petite chanson très courte qui s'appelle La valse à Ouin-Ouin. C'est encore une blague à ce bon Ouin-Ouin, vous l'entendez raconter dans tous les coins. Et c'est toujours la dernière qui se dit de s'en manier. Il est bête, il est tarte, il est noir, Ouin-Ouin, mais partout malgré tout chacun l'aime bien. Et sa valse qui nous enchante, on la chante soir et matin. Il la chante soir et matin, Ouin-Ouin. Bon, je commence, attention. Les aventures impensables de ce gars-là. Il avait 7 ans. Il était assis dans un train en face d'un homme qui avait un goitre énorme. Ouin-Ouin fixait le goitre avec insistance. Au bout d'une demi-heure, l'homme se fâche et dit à Ouin-Ouin : Tu veux que je t'avale, petit morveux ? On lui dit : Finissez-moi, d'abord on avale l'autre.
Les archives du rire.
Ouin-Ouin est donc un véritable personnage qui vit dans les montagnes neuchâteloises. À partir de la fin des années 50, il devient une figure importante à la radio. Ses aventures sont incontournables avec la voix de Claude Blanc et le concours d'Émile Garda. Rencontre à Lausanne avec les deux compères.
Mais c'est monsieur Miliquet. Qu'est-ce que vous faites d'air ce guichet?
D'abord, repos. Hein, devant un officier quasiment d'état civil.
Vous avez payé vos galons ou bien?
Oh, c'est sûr. Puis maintenant, je fais payer le contribuable des fois.
Il y a un type de la Chaux-de-Fonds qui était un conteur d'histoire, un marrant, quoi. Comment est-ce qu'on appelle ça dans les cantines, le major de table, enfin, celui qui fait rire les copains. qui a transporté ces histoires dans les compagnies où il faisait du service militaire. Et ça a rendu le personnage de Ouin Ouin populaire. C'est tout à fait vrai. Et c'est vraiment, je crois, un des cas uniques d'un vrai monsieur né quelque part, mort quelque part et enterré, qui est entré dans la légende. Alors, il a raconté les histoires qui faisaient marrer les copains, et puis ça s'est redit. Après, il y a eu des battleurs de foire. Il y avait un monsieur qui s'appelait Toutims, qui vendait des fascicules des histoires de Ouin Ouin, qui les racontait lui-même, dans les foires, dans les marchés, comme ça. D'autres ont repris ces histoires, Pierre Dudan, entre autres, qui les a reprises comme ça, parce qu'il apportait un peu de la Suisse, quoi. Il racontait ça aux Parisiens, ça les faisait marrer. Et Ouin Ouin est devenu vraiment un personnage. Et je crois qu'il l'est devenu aussi grâce à Claude Blanc.
Je suis pas né de la dernière pluie, hein.
Mais félicitations, monsieur Ouin Ouin. Bravo, hein.
Mais il n'y a pas de quoi, merci bien.
Un petit soldat, hein, qui est né, hein. N'est-ce pas,
hein? Oh, non, c'est un garçon.
Mais justement, dans nos cantons, chaque enfant naît soldat, déjà au berceau, c'est sûr. Félicitations à la mamie, hein.
Merci, je manquerai pas.
Combien? 3 kilos et demi?
3 kilos, 450.
Me dis donc, on s'embête pas, hein, samedi soir, chez Ouin Ouin.
Claude Blanc, pourquoi et comment est-ce qu'un jour vous avez décidé de mettre ce personnage en onde et de créer ces aventures de Ouin Ouin?
C'est un peu par hasard, enfin c'est dans l'émission d'Emile.
Demain dimanche.
Qui s'appelait Demain dimanche. Et au départ, la volonté n'était pas de réaliser des histoires, mais c'était de faire un concours, hein. C'était un concours d'histoires drôles. Ouais. C'est une satire des raconteurs d'histoires.
On voulait se moquer de ceux qui racontent des histoires d'Ouin Ouin, justement. Et c'était tellement précis que les gens devaient envoyer sur carte postale une histoire de Ouin Ouin, puis il y avait un règlement, alors. Mais si ça ne commençait pas par « c'est comme une fois il y avait Ouin Ouin », parce que, vous savez, les raconteurs d'histoires disent « oh, c'est comme une fois il y avait ». Bon, ça nous agaçait. Alors, il y avait d'excellentes histoires qu'on a reçues par carte postale, mais ça ne commençait pas par « c'est comme une fois il y avait Ouin Ouin », alors éliminé. Impitoyablement éliminé.
Passer au panier tout de suite.
Ouais.
Même si l'histoire était bonne.
Ah, surtout.
Mais livret de famille, vous avez sur vous, pas
Oui.
Viens t'asseoir sur le banc, vous voyez. Vous avez ça. Bon, alors, c'est là que je noterai, pas à la ronde, hein. Avec une plume que je trempe dans l'encrier, pas comme dans l'ancien temps, les scribes.
Les histoires étant ce qu'elles sont, c'est-à-dire rarement drôles, enfin, moi, je parle mon nom personnel, là, pas. On s'est dit, on va faire des tranches de vie. On va regarder les gens autour de nous, puis faire de la satire de la vie quotidienne de chez nous. À tel point que quelquefois, il y avait une chute à la fin, mon Dieu, mais j'irais jusqu'à dire qu'elle était superflue. Mais ce qui comptait, c'était l'épaisseur autour, c'était les gens de chez nous, leurs défauts, les nôtres donc, bien sûr, parce qu'on connaît encore mieux les nôtres que ceux des autres. Et on a tiré parti de ça pour que les gens se reconnaissent, avec une petite chute quand même, pour dire au revoir.
Prénom de cet enfant.
Écoutez, alors, ça serait...
Pardon?
Oui, c'est à cause de son parrain, vous voyez.
Ah, je vois, il est slave.
Non, il est oculiste.
C'est comme une fois il y avait Ouin Ouin raconté dans les archives du rire par Émile Garda et Claude Blanc.
Les archives du rire.
Nous restons dans la région pour parler de cet humour si particulier qui caractérise le Jura. Deux ou trois noms vous viennent spontanément à l'esprit, mais pour bien les introduire, j'ai voulu ressortir un entretien réalisé avec Pascal Rebeté. Avec Bertrand Teubé, il signe un magnifique reportage pour la télévision suisse romande diffusé le mardi 1er juin 1993 et qui est présenté dans le magazine Viva. Ce reportage, c'est « Jura, une montagne de rire ». Nous rencontrons Pascal Rebeté quelque temps auparavant. Il nous parle de l'impulsion qui a fait naître ce document d'une quarantaine de minutes.
Au départ, on a d'abord voulu être universel. Je pense qu'à l'arrivée, on y est également. Mais je vous explique un petit peu ce qui nous a conduit Bertrand Teubé, le réalisateur, et moi-même à réaliser cette émission. On s'est rendu compte qu'il y a un phénomène du rire actuellement. Les humoristes sont en tête d'affiche. Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que globalement, ils font spectacle, ils attirent les foules. Alors on s'est dit, intéresserons-nous à ce phénomène quand même assez important actuellement. On s'est dit, en réfléchissant comme ça, parlons-en au niveau général. Après, on s'est dit, oui, mais voyons un peu ce qui se passe en Suisse romande. On s'est rendu compte que le phénomène en Suisse romande était déjà énorme pour être traité dans une émission de 42 minutes. Alors, on s'est de plus en plus concentré sur une région qui est la région des montagnes jurassiennes, c'est-à-dire grosso modo entre Bienne et Morteau, en passant par Seignelay-Gier, Le Locle, la Chaux-de-Fonds.
Bonsoir. Bienvenue pour cette première assemblée communale de l'année. Je tiens à saluer chacun par sa présence, ainsi que Jean-Henri qui sera là pour me seconder. Je tiens également à excuser l'absence de Madame Amédro, décédée au début de la semaine, comme chacun le sait.
À ce propos, déjà, bienvenue à toi, Pierre-Étienne.
Merci.
J'aimerais remercier Monsieur Amédro d'avoir bien voulu mettre à notre disposition toutes ces magnifiques fleurs pour décorer la salle. Encore merci et courage.
Je crois qu'il y a ici, dans les montagnes jurassiennes, une chose qui effectivement se distingue des autres humoristes, il y a une grande imprégnation du terroir, des origines. Tous ces humoristes ne se ressemblent pas, d'ailleurs, ils ont tous une variété de comiques très différentes, mais je dirais qu'ils ont des points communs. Par exemple, ils s'inspirent tous du terroir, des défauts de langage, de l'accent. Ils ont tous une capacité, finalement, que n'ont peut-être pas les autres, à se moquer d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils se mettent en jeu, ils se mettent en scène, ils ont le sens du ridicule, c'est-à-dire qu'ils arrivent à se moquer d'eux-mêmes, ce qui est une grande force à mon avis, parce que l'humour c'est ça, c'est la capacité de se moquer de soi-même.
Dites-moi, est-ce que je peux chanter quelque chose ?
Vous avez choisi aussi quelqu'un comme Grock, qui... Et là, vous notez que les Jurassiens se réfèrent à Grock, mais on se rend compte, on a rencontré dernièrement Raymond Devos, tout le monde se réfère à Grock.
Oui, parce qu'il a trouvé, lui, en 40 ans de métier, il a fait toujours le même numéro quasiment. Je veux dire, c'est vrai que c'est un peu le papa spirituel de tous ces artistes, parce qu'il est arrivé à une sorte de quintessence de l'art comique, du clown sur scène. C'est vrai qu'il est remarquable. Et puis bon, il est né à Reconvilliers. Il a, avec son père qui était bistrotier, ils se sont baladés un peu dans la région. Ils ont vécu à Bienne au restaurant Paradisli. C'est là la première fois qu'il est allé en fait devant le public, Grock, à l'âge de 13 ans, qu'il a fait ses premières clowneries. On a tourné dans ce bistrot d'ailleurs. C'est aussi pour ça qu'on a inclus Bienne dans l'émission. Et puis, c'est pour ça aussi qu'il y a d'autres artistes. Il y a par exemple Peter Wiesbrot, qui a, à mon avis, un grand maître, un grand artiste également, qui a un lien avec Grock d'ailleurs, parce qu'au Paradisli, d'une part, il habite en face de ce restaurant où habitait Grock, et en plus, il y a travaillé dans une période de galère où il n'avait pas de boulot, il a été casserolier pendant 2 ans. Donc on a fait comme ça ces liaisons entre les gens, et c'est vrai que Grock est très important dans la tête des gens, mais maintenant, il est sublimé, et en même temps, on verra que des nouveaux humoristes, je pense à QG Barbeza, etc., se disent, bon, il n'y a pas à refaire Grock, il faut aller de l'avant, il faut... qu'à notre tour, nous inventions d'autres formes de clownerie, quoi, de faire le clown, de faire de l'humour. Quoi.
Bah tiens, ça tombe bien, puisqu'à leur tour, Cuche et Barbeza vont tourner avec le Cirque CNI. On les avait rencontrés à Bâle. Le duo nous racontait ici comment le cirque les avait marqués dans leur enfance.
Moi, j'ai des souvenirs surtout de... Déjà, d'aller au spectacle, ça c'est super, quand on est gamin, c'est déjà la sortie, parce que tu sais, chez nous, on était fils de paysans, on n'avait pas de la viande tous les jours, alors d'aller au spectacle, d'aller au CNI, c'était déjà, moi j'allais à Neuchâtel ou au CNI en général, il me semble, souvenir que j'en ai, donc c'était déjà un petit peu la fête, c'était pas chaque année, et puis après, ben, c'est, moi j'adorais les trapézistes, j'adorais tout ce qui se passait, tout ce qui était acrobatique, tout ça, donc c'est des souvenirs, des sensations qui me restent, l'odeur, le tout ça, et puis le cirque CNI, même quand il n'y avait pas, c'est quelque chose, on pouvait jouer à jouer au cirque en gamin, donc puis, quand on jouait au cirque, ben, c'était le cirque CNI, c'était pas un autre cirque, c'était le grand cirque tout le temps, puis c'est vrai que ben, c'est un petit peu presque comme un but, pas un but, mais quelque chose d'énorme qui se réalise, du coup, de faire partie du spectacle, de ce spectacle-là, c'est vrai que ça réveille toutes ces sensations de gamin, quoi.
Jean-Luc Barbeza, je crois que ce qui vous a marqué, ouais, tout le monde regarde le programme du CNI.
Ah, ça tombe, ouais. On le découvre, hein, parce que l'attaché de presse a donné le programme à Jean-Mi, c'est ça qu'il faut expliquer, et nous, on ne l'avait encore pas vu, donc maintenant, on profite de regarder le programme.
Jean-Luc Barbeza, je crois, les souvenirs de CNI, c'est notamment Émile en piste et Dimitri.
Oui, absolument. Voilà, c'est, je me rappelle, c'est marrant parce que je pensais pas que j'allais faire un jour le CNI, je pensais pas un jour même que j'allais faire du spectacle. Je pensais surtout pas que j'allais plutôt faire rire les gens quand je serais grand. Et ce qui m'a quand même marqué, c'est quand même de tout ce que je me souviens du cirque quand je suis allé, quand j'étais gamin, c'est Dimitri et Émile.
Mais avant le cirque, il y eut la passion du théâtre, la volonté de brûler les planches. Et voilà nos deux comiques neuchâtelois créant un humour qui n'existait pas dans nos contrées.
Mais fais gaffe avec tes gens.
Quoi, je t'ai fait mal?
Tu crois que ça fait du bien ou quoi?
Qu'est-ce qu'on fait maintenant?
Ben on reprend.
On reprend depuis où?
On reprend depuis où je reprends les gens.
Ben d'accord.
Ah aïe oh! Mais fais gaffe avec tes gens.
Quoi, je te fais mal?
Mais tu crois que ça fait du bien ou quoi?
Qu'est-ce qu'on fait maintenant?
Bon ben on reprend.
Mais on reprend depuis où?
On reprend depuis où je reprends les gens.
D'accord.
Ah aïe oh! Mais fais gaffe avec tes gens.
Quoi, je te fais mal?
Mais tu crois que ça fait du bien ou quoi?
Qu'est-ce qu'on fait maintenant?
Bon ben on continue.
Quand le spectacle d'humour, il évolue beaucoup avec le public. Et maintenant, on est vraiment dans une phase d'ascension pour le spectacle, parce que on le découvre dans des petites salles, on découvre dans une grande salle, on le découvre devant un public qui n'est plus le public régional du Locle, je ne sais pas quoi. Donc chaque fois, il y a une découverte, et puis ça nous permet de faire une progression. Quoi.
Ben c'est pas aujourd'hui que je vais me faire une nana, hein, moi.
Je comprends pas, parce que c'est pourtant un sacré pleb quand même.
Moins que toi. Et...
Mais non, c'est pas pareil. Toi, tu fais du sport, de l'aile delta, l'équitation, tu montes sur les chevaux, même les mulets maintenant. Ça plaît aux gonzesses.
Mais toi, t'as toujours réponse à tout. Puis en plus de ça, t'as des super beaux habits. Ouais, et puis tu chantes.
Ouais, je chante bien, ça c'est vrai. Mais toi, tu parles un peu le suisse allemand, hein?
Le premier sketch qu'on a fait, alors qu'on avait 12 ou même pas, qu'on avait 10 ans, qu'on était au chalet du ski club et qu'on voulait faire rire nos frères et sœurs et nos copains.
Qui c'est qui veut des oranges? Qui c'est qui veut des oranges? Belles oranges? Qui c'est qui veut...
On faisait déjà des sketchs de Fernand Reynaud quand on avait 10 ans.
Donc le hasard est pas un véritable hasard, quoi. C'est-à-dire que le hasard c'est notre monde à nous, en quelque sorte. Donc ça, on n'a pas été chercher ça très loin.
Et puis maintenant, comme on prend un petit peu de maturité, parce qu'on devient un petit peu vieux, ben on dit les choses moins directement. On les dit de manière peut-être un petit peu détournée, pas de manière aussi primaire que quand on était des jeunes adolescents.
Un petit peu vieux.
Il dit ça parce qu'il est sur un coup avec une gonzesse qui est plus âgée que d'habitude, alors il essaye de se valoriser comme ça. Mais parce que d'habitude, il les drague à la sortie de l'école secondaire.
C'est la première fois que je peux en avoir une qui a le permis de conduire.
Cuche et Barbeza vont faire carrière. Leurs bêtises feront le tour du monde. De Paris tout nu à Montréal pour le festival Juste pour rire. La preuve que l'humour de notre coin de pays est parfaitement exportable. On retrouve Pascal Rebeté.
Bah, je pense qu'ils l'ont prouvé eux-mêmes. Hein. Je veux dire que Zouk s'est vendu partout. C'est pas parce qu'elle avait un terrible accent jurassien et qu'elle employait d'ailleurs qu'il n'était pas compris. Quand je disais tout à l'heure qu'on avait envie de faire une émission un petit peu générique comme ça sur l'humour en général et qu'on en est arrivé à un truc très régional, je pense que plus on est régional, et je crois que c'est la grande force des humoristes jurassiens, c'est plus on est régional, plus on atteint à l'universel. C'est-à-dire plus on est juste avec soi-même, avec ses racines, avec ses origines, avec le lieu où on vit, plus le rire, en fait, est véritable.
J'ai attendu un quart d'heure derrière une file pour un malheureux lapin à 1,95 €. Je ressors de là, est-ce que je ne tombe pas droit sur la dédette de la cabouenade du haut du Cras du Four? La dédette, elle parle un peu pointu comme les Parisiens. Et des « où est-ce que tu vas, dédette ?» Elle me dit, oh, j'ai fait du shopping. J'ai dit, qu'est-ce que tu chopes, la creuve?
Dans le reportage de Pascal Rebeté et Bertrand Teubé en 1993, l'accent est mis également sur les autres comiques, ceux qui restent dans leur lieu, comme le Comé ou d'autres. Aujourd'hui, on pourrait même encore ajouter des artistes comme Bruno Cobel, que j'ai vu au Festilaf il y a quelques mois et particulièrement apprécié dans son numéro de Facteur.
Les archives du rire.
Il est impensable de parler de Cuche et Barbeza sans présenter Pierre Miseré. Je l'ai rencontré de nombreuses fois, plus de 10. J'ai écouté beaucoup d'interviews de Pierre Miseré avant de me décider sur l'extrait que je voulais vous faire partager. Finalement, je vous propose tout simplement l'une des plus récentes. En 2016, Pierre Miseret crée un nouveau spectacle, Excusez-moi. En quelques minutes, on retrouve tout Pierre Miseret, avec surtout son personnage de Beuchat. Le voici donc en 2016 au Lave Théâtre, à Courtétel.
En fait, le vrai Pierre Miseret n'est plus là. Il n'est plus là. C'est un... D'ailleurs, c'est une histoire vécue. C'est un gars qui m'imitait très très bien. Et il est parlé comme ça et tout, voilà, je ne veux pas dire son nom bien sûr. Et il est horloger, il est horloger, et il, maintenant je crois qu'il est à la retraite. Mais alors il m'imitait, il était venu voir un de mes spectacles en 85, il a été fasciné. Et puis, alors il parle comme ça, et puis il m'a dit, oh, mais ce spectacle c'est extraordinaire et tout. Et puis... À un moment donné, il allait à Nyon, il allait chez des amis, des copains, puis il prenait ma voix, tout. Puis les gens disaient, mais vous êtes Pierre Miseret. Puis le gars disait, ouais, je suis Pierre Miseret, tout. Puis une fois, il y a un gars qui m'appelle. Oui, puis il y a un gars qui m'appelle, une fois au téléphone, il me dit, oh, mais Dionys, tu m'as fait rire l'autre jour, hier, à Nyon. Puis je dis, hier soir. Ouais, t'es Miseret. Oui, je suis Miseret. Ben oui, ben, tu nous aidais. Mais il parlait comment? Comme ça, il disait gros bœuf. Mais ouais, c'est ça, il parlait comme ça. Il est petit, ouais, il a une moustache. Je dis, ah non, moi, j'ai pas de moustache. Mais attendez voir. Il est toujours bien habillé. Oui, ben écoutez, non, c'est pas lui. Je sais qui c'est. Il est horloger. Ouais, non, il m'a pas dit, il nous a dit que c'était Pierre Miseret. Et puis lui, j'ai dit, mais toi, comment tu t'appelles? Il m'a dit, je m'appelle X. Et puis il était handicapé. Il a eu un handicap il y a longtemps. Et puis j'ai dit, ben je veux quand même venir vous trouver. Il habitait là, Chaux-de-Fonds, je suis allé le trouver. Puis effectivement, j'ai parlé comme ça. Il m'a dit, mais ouais, c'est ça, mais effectivement, c'était pas vous.
Alors, il se présentait comme ça. Bonsoir, je m'appelle Pierre Miseret. Je viens de la Chaux-de-Fonds. Je suis catholique, jurassien et suisse. Excusez-moi.
De faire rire, c'est extraordinaire. Puis ça permet de parler de toute chose. On peut parler de la religion, on peut en parler, mais si c'est pas avec vulgarité, mais avec simplicité, avec finesse, je pense qu'on peut parler de tout, de la mort, de la création, des divorces, de tout ce qui se passe dans la vie. Et ça, c'est une chance. Parce que les gens, ça les... Il y a un exorcisme, là. Mmh. Puis les gens se retrouvent, ils se disent, ah ben, ça, c'est moi. Oui, ça, ah oui,
les
ça,
minutes c'est... qui nous restent de cette émission, on va les consacrer à Zouk. Elle est toujours présente lorsque l'on parle d'humour. Incontournable, c'est une comédienne véritable. Pascal Rebeté parle de Zouk rencontré à Paris pour cette émission Viva de 1993, jura une montagne de rire. Zouk qui ne parlera pas à la caméra.
Alors Zouk évidemment est en fait la première personne, je dirais, mis à part Grock, hein, mais, qui était plutôt un clown, et la première personne qui a fait parler de cet esprit jurassien, qui a utilisé l'accent et qui a été connu internationalement. Zouk, elle fera qu'une apparition furtive dans notre émission pour une raison bien simple, c'est que nous l'avons rencontrée et que Zouk, depuis 3 ans maintenant, a cessé la scène. Elle a, en fait, elle en a fini avec son personnage de Zouk tel qu'on l'avait vu. Et elle se concentre maintenant uniquement à des rôles au cinéma ou à la télévision, dans des téléfilms. On a passé une journée à Paris avec elle, magnifique, on s'est bien marié, c'était en préparation, mais on n'a pas tourné avec elle parce qu'elle ne le voulait pas. Elle a décidé de ne plus se laisser accaparer ou de se laisser prendre des choses phagocytées par les médias, si bien qu'elle a choisi le silence face aux médias, et on a décidé également de respecter cette décision.
Si je n'ai jamais rencontré cette grande dame, ça a failli se faire à Neuchâtel, mais finalement l'interview a été annulée. J'ai par contre vu Roger Montandon à Paris en décembre 2001. Ce peintre et homme de lettres me parlait de cette comédienne qu'il a connue très très tôt. Roger Montandon.
En effet, j'avais connu son père. Il était avec moi à l'école primaire. Et on s'est retrouvés avec des amis. Et c'est là que est apparue la petite Zouk qui avait à l'époque 15-16 ans. Et qui a fait, lors de la réunion d'amis qui avait été organisée après l'exposition, elle a commencé des imitations de, de sa famille, des gens du village. Et là, c'était surprenant, quoi, parce que ça m'a tout de suite saisi.
Allô, Madame von Almen? Allô, oui? Oui, bonsoir, madame. Oui, c'est Madame von Almen elle-même. Bonsoir, madame. Non, j'y suis. Bonsoir, madame. Oui. Non, cette fois, j'y suis. Bonsoir, mademoiselle.
Elle manifestait des dons étranges, pas simplement d'imitation, comme maintenant tout le monde fait des one-man shows, mais c'est des sketchs assez extérieurs. Zouk entrait dans la vie des gens et au fond, elle était d'un réalisme surprenant dans les sensations qu'elle donnait. Et là, au fond, cette vision qu'elle avait du monde m'a intéressé parce que finalement, elle était pas très éloignée de ce que je ressentais, cherchais à manifester moi-même dans mon travail.
Qu'est-ce qu'il veut, le public? C'est pas ce qu'il veut, le public.
Elle restituait les choses, mais elle les restituait pas d'une façon extérieure, anecdotique, elle les restituait dans leur fond. La collaboration entre elle et moi s'est instituée tout naturellement. Parce que quand elle a débarqué à Paris, elle était venue à mon atelier se réfugier un peu, parce qu'au fond, elle était, je ne dirais pas, un peu paumée à Paris, un peu.
Mais je vous en prie.
Que reste-t-il de cette grande dame en noir aujourd'hui ? Tout ce que l'on peut en dire est tout ce qu'elle inspire encore. En 2009, la compagnie Extrapol présente Z, forfait illimité, un spectacle consacré à Zouk avec ce décalage que Camille Rebété a su apporter. Ce spectacle créé à Seignelégier est interprété par Martine Corba et Alain Tissot dans une mise en scène de Laure Donzé.
Ça pose pas mal de questions, c'est vrai. En tous les cas, on a cette référence claire au téléphone. Hein. D'une part, c'est vrai que le téléphone, c'est certainement un des sketchs les plus connus de Zouk, mais c'est aussi ce qui nous permet d'entrer en connexion aujourd'hui, 30 ans après, avec ce qu'elle fut.
Allô, Madame von Almen? Allô, oui? Oui, bonsoir, madame. Oui, c'est Madame von Almen elle-même. Bonsoir, madame.
Si on appelle Zouk aujourd'hui, est-ce qu'elle va répondre? Est-ce que nous, on répond quand on se sent appelé aujourd'hui par ces sketchs? Enfin, c'était toute cette idée de tourner autour de ce dialogue entre les années 70 de Zouk et les années 2010 qui sont les nôtres. Z, forfait illimité, parce que peut-être, espérons-le, on a un abonnement illimité à Zouk au-delà des années. Il aurait été bien malvenu, effectivement, de prétendre faire du zouk, imiter zouk. Enfin, c'est quelque chose qu'on a d'emblée écarté. C'était pas le propos du spectacle. Zouk, par contre, est envisagé ici comme un tremplin, comme une source de création, une ressource de création à partir de laquelle on a travaillé, nous, en improvisation, pour mettre en lumière le regard qu'on porte, nous, aujourd'hui, sur Zouk, et particulièrement sur le fait qu'elle est disparue comme ça. C'est ça la question qui nous a intrigués. Qu'est-ce qu'il advient d'elle? Qu'est-ce qu'il advient des gens, des choses, une fois qu'elles ne sont plus tangibles? Est-ce qu'elles passent? Combien de temps il nous faut pour être oublié? Enfin, toutes ces questions-là qui nous concernent ou nous concerneront tous, de près ou de loin, un jour ou l'autre.
Excusez-moi, je suis toute émue. Émue, je suis toute émue.
C'est vous, alors?
Il y en a qui doivent m'envier, hein, je peux vous dire.
Non, parce qu'on ne sait pas trop ce que vous devenez.
Quelques mots suffisent, ou deux mots suffisent, pour entrer dans l'univers de Zouk.
Des mots, parfois des répétitions de mots, et puis je dirais aussi des silences. Parce que dans les sketchs de Zouk, ou en tout cas dans ce qu'il ce qu'elle disait, ce qu'elle... la présence des silences, et comme elle les habitait, eh ben c'était quelque chose de qui est propre à elle, qui est très très fort, et j'espère bien que la force des silences sera présente au-delà des mots.
Qu'est-ce qu'il veut, le public? Qu'est-ce qu'il veut, le public?
L'humour dans les montagnes neuchâteloises et jurassiennes, c'est encore bien plus que cela. Mais il est temps de refermer nos archives du rire. Dans cette émission, vous avez entendu Jacques Martin, Raymond Devos, Claude Blanc, Émile Garda, Pascal Rebeté, Roger Montandon, Cuché Barbeza, Pierre Miseret et Martine Corba, rencontrés à Neuchâtel, Genève, Morges, Bâle, Paris, Seignelégier et Courtetel entre 1989 et 2016. Les archives du rire, en son et en images, c'est déjà sur notre site internet. Au revoir et à bientôt.